Donc on va parler d'aventures lointaines, évidemment on va parler de space opéra, on va aller voir ce qu'il y a derrière la colline avec notre plateau d'invités. Je vais commencer par vous les présenter. Je vais commencer par Laurence Sunner qui vient de faire deux tomes de sa trilogie Quantica. Le troisième est à venir. Voilà, le premier tome s'appelle Vestige et le deuxième L'ouvreur des chemins. Exactement. Voilà. À ses côtés, Alain Grousset. Alain Grousset, c'est notamment Sens Interdit ou Les Enfants des Étoiles, mais c'est également Giganté, roman, double roman, qui vient de sortir avec son compagnon Pierre Bordage, juste à côté. Et ils ont. Non, enfin, son compagnon d'écriture. Enfin, ils sont mariés littérairement parlant, si on peut dire ça. Voilà, justement.
Daniel.
Donc, voilà, ils vont pouvoir nous parler. Alors, Giganté, on va y revenir. C'est simplement, ils ont écrit chacun un roman sur une planète qui s'appelle Giganté, en prenant chacun Gigante. Pardon, j'ai rajouté le E. Donc sur Gigante, ils vont pouvoir nous raconter comment ils ont pu voir ensemble derrière la colline. C'est aussi intéressant. À ses côtés, Pierre Bordage, donc Gigante, La Fraternité du Pancar en termes de space opéra, Les Guerriers du Silence et tant d'autres. Et puis à mes côtés, Yal, Ayordal, Rainbow Warriors, qui n'a rien à voir avec du space opéra, mais alors, rien à voir. Mais La Bohème est livrée plus, quand même, un petit peu la troisième lame. L'Histrion et Transparence, qui n'a rien à voir non plus avec du space opéra. Mais on pourra peut-être lui poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne veut plus regarder derrière la colline et faire de la science-fiction ? On pourra. Simplement, dans l'intitulé de cette conférence, il y a un petit peu cette question, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, c'est une question un peu vague. Hein. Quelle est la raison ? Pourquoi les aventures lointaines ont du mal à attirer un grand nombre de lecteurs ? On va d'abord leur demander, en premier lieu, pourquoi eux, ça les attirait un moment de faire de la science-fiction et du space opéra et justement d'aller voir derrière cette colline dont nous parlait Jack Williamson. On va commencer par toi, Laurence. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la science-fiction ?
Allô.
Voilà, et de partir loin de la Terre et de situer ton intrigue dans l'espace, rencontre des extraterrestres, planètes.
En fait, je pense que ça vient de mon enfance où mon père partait toujours dans des voyages au Brésil, en Amérique du Sud, etc. Et moi, je restais toujours à la maison. Et en fait, j'étais toujours en train de rêver qu'un jour, on arrive, bon, maintenant, on déménage, on part habiter, je sais pas où, en Polynésie, etc. Et en fait, ça a un peu nourri mon imaginaire. Et j'ai commencé à écrire des histoires d'espace lointain. C'est-à-dire justement pour remplacer ce vide, en fait, pour remplir ce vide d'exotisme et de voyage lointain. En fait, je pense que pour mon cas, c'est vraiment ça.
Même question pour Alain.
Hop. Moi, je suis originaire de la Creuse, donc on peut que se sortir de la Creuse. Mais... Donc, les voyages lointains, c'est déjà l'Indre, la Corrèze, la Haute-Vienne. J'explique pas trop ça. C'est la science-fiction, ça est tombé dessus comme on tombe amoureux de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis voilà, cette passion-là a fait que cette science-fiction ne m'a plus jamais quitté en tant que collectionneur, en tant que directeur de collection, en tant qu'écrivain, enfin lecteur professionnel. Voilà, que sa passion d'un seul coup dérive sur différents métiers, il n'y a rien de plus génial que ça. Alors après, bon, pourquoi la science-fiction ? Aller voir plus loin. Oui, moi je pense qu'il y a un côté Dieu, on a envie de jouer au Dieu. On se dit, tiens, je vais prendre une planète, et puis alors comment je vais mettre mes héros dans la merde ? Alors je vais créer un monde terrible, il n'y a pas d'eau, il y a des gros vers géants qui grouillent partout, oui, ça c'est pas mal. Et voilà, moi je pense que il y a cette envie de création, de créateur. Et puis une fois qu'on a bien mis nos héros dans la merde, après d'un seul coup c'est nous qui sommes dans la merde, parce qu'il faut créer une histoire qui soit cohérente par rapport à ça. Et là donc, ce 1% d'inspiration se traduit après par 99% de transpiration. Voilà.
Pierre, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du space opéra, d'aller raconter des aventures en dehors de la Terre ?
Alors quand j'ai lu mon premier livre de science-fiction, c'était assez tard, je suis un tardif. Commencé à 18 ans et j'ai eu un effet immédiat qui s'appelle le vertige et ce vertige m'a rappelé les lectures que j'avais enfant et quand je disais les mythologies, c'est exactement le même effet Et ce qui me procurait le plus de vertige, c'était le space opéra. Dès que j'ai lu, effectivement, tu parlais de Dune avec ses vers géants, Asimov avec Fondation et tout ça, c'est là où j'avais le plus grand vertige et le plus d'intérêt, finalement, en tant que lecteur. Donc, naturellement, quand j'ai commencé à écrire, je me suis inscrit dans cette tradition-là, sans savoir que c'en était une, d'ailleurs. Hein. J'ai écrit Les Guerriers du Silence, pardon, qui était un space opéra, sans savoir que je faisais du space opéra. Mais il y avait pour moi un intérêt premier du space opéra qui est le merveilleux. Je pense que c'est le refuge du merveilleux dans la science-fiction. C'est-à-dire c'est un voyage extraordinaire auquel on va être convié, le lecteur. Et ensuite, ça permet peut-être, par un effet loop, parce qu'Alain disait qu'on met les personnages dans des situations extrêmes et sur des planètes difficiles, par exemple, eh bien, ça permet de mieux étudier, de mieux explorer l'âme humaine. Donc voilà, c'est partir plus loin, de l'autre côté de la colline, comme on disait, pour peut-être mieux se rapprocher de nous-mêmes.
Yal.
Je suis obligé d'applaudir à tout ce qu'on me dit, mes camarades, c'est magnifique, quoi. C'est superbe et c'est tellement vrai que je vois pas ce que je pourrais rajouter.
Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de faire un peu de SF?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la SF? Mais non, on va revenir sur des vieilleries, mais je suis né dans une bibliothèque. La deuxième plus grosse bibliothèque européenne de science-fiction. Voilà, ça c'était mon père. Donc chaque fois que je prenais un bouquin, il n'avait pas que des bouquins de SF, hein. Heureusement j'ai pu lire d'autres choses, mais quasiment chaque fois que je prenais un bouquin au hasard dans la bibliothèque, et dès l'âge de très jeune, j'avais le droit de prendre ce que je voulais, ben il y avait 9 chances sur 10 pour que ça tombe sur de la SF. Donc j'ai grandi là-dedans, j'ai été bercé là-dedans, et tout naturellement quand je me suis mis à écrire, alors que j'avais des choses à dire qui étaient sur notre monde contemporain, j'ai pris le véhicule SF en route, space opéra particulièrement. Je fais comme Pierre, on a écrit du space opéra sans le savoir. Et puis voilà, c'est parti. Mais c'est une métaphore. Je me sers de la science-fiction comme d'une métaphore. Il y a eu des gens très futés, très malins pour me le reprocher un petit peu, expliquer que je n'écrivais pas de la science-fiction, qu'en fait j'écrivais comme tout le monde de la littérature générale, mais je la déguisais avec des outils science-fictionnels. Bon, vous verrez à travers certains de mes bouquins, pour ceux qui les ont pas lus, que de temps en temps, l'outil science-fictionnel, c'est pas qu'un outil, c'est l'ensemble du truc. Et puis, ces univers qui sont derrière la colline, moi aussi, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Là.
C'est une bonne motivation. Laurence, t'es d'accord quand Pierre ou Yal nous disent on va plus loin pour finalement aussi parler du tout près?
Absolument. Merci. Je trouve que c'est un bon moyen, n'est-ce pas? C'est un bon moyen de parler aussi de... Ben moi, disons que dans ma trilogie, j'aime beaucoup parler de l'autre. Mais de l'autre, l'autre, ça peut être n'importe qui. Chacun est un mystère pour l'autre, en fait. Donc, c'est vrai qu'on en revient toujours à parler de nous-mêmes, de notre rapport à la science, de nos rapports au mythe, notre façon de fonctionner. Donc effectivement, c'est vrai que la science-fiction nous ramène à nous-mêmes. Mais c'est un très bel outil pour justement explorer un peu différemment ces aspects. Attention, qu'est-ce qu'il va dire?
Je peux me permettre. Donc tu as parlé de ton père, tu as parlé de cette fascination pour le voyage. Tu as oublié de dire que tu es devenue une voyageuse toi-même.
Oui, c'est vrai. Mais j'ai mis du temps. C'est vrai que maintenant j'aime beaucoup écrire sur la science-fiction, j'aime les mondes lointains, mais j'aime aussi partir à la découverte moi-même, à bord de bateau, en fait. Donc j'aime explorer aussi par moi-même.
Il y a quand même un rapport énorme entre le bateau et l'astronef. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, c'est un petit peu la même chose.
On va ouvrir le capot et on va mettre un peu les mains dans le cambouis. Quand tu imagines ta trilogie, comment est-ce que tu fabriques le décor? La planète, le voyage, comment ça se passe?
Alors moi, ça vient, c'est toujours des feelings. En fait, c'est tout d'un coup, je rêve de Gaïa, où je vais rêver de la planète des bâtisseurs. J'ai des visions assez fortes qui viennent. En fait, je n'essaie pas de construire, ça se construit tout seul. Et ça s'alimente, en fait. Et moi, je ne fais pas de recherche préliminaire, je fais mes recherches au fur et à mesure que j'écris, parce que c'est le fait d'écrire qui peuple mon imaginaire, en fait. Et ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc c'est une sorte de constante auto-alimentation de tout. Et donc voilà, mais c'est surtout... bon, après, j'essaie de construire un peu plus, de voir... Tiens, j'ai cette idée, comment est-ce que je vais la développer, j'essaie de... Je creuse d'un point de vue scientifique, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est toujours des sortes de visions comme ça, d'univers que j'ai envie. Absolument, c'est comme une sorte de fantasme, de rêve. Et j'ai envie de voir mes personnages comme si moi-même, j'étais dans ces paysages-là. Je rêverais de vivre leur aventure. Et en fait, voilà, ben, c'est super la littérature parce qu'effectivement, on peut vivre ces aventures-là en ayant l'impression d'y être. Quoi, voilà. Donc,
Alors, vous avez vu les sourires entre Alain et Pierre. On va pouvoir en discuter sur Gigante. Comment est-ce que vous l'avez construit, tous les deux?
Ce qui est très rigolo, c'est qu'elle vient vous décrire dans toute sa splendeur... Pierre, finalement, qui est scripturant, c'est-à-dire qu'au moment où ces gens-là commencent à écrire, ils ouvrent un robinet, oui, ces gens-là, parce qu'ils ouvrent un robinet et ça coule. Alors que lorsqu'on est structurant, comme moi, ça dure depuis des fois des années. Alors moi, je travaille par caisse. Bon, il faut avoir de la place. Hein. Y a un sujet qui m'intéresse, je prends une caisse et je mets de la doc dedans et ça peut durer 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et quand la caisse déborde, je me dis, bon, c'est ce moment que je me lance à écrire le livre. Parce que j'ai besoin vraiment de penser très longtemps au livre, à la structure. Voilà, donc ça fait rigoler Pierre.
Je reviens sur Gigante parce que du coup, vous avez été obligé de travailler l'un et l'autre complètement différemment.
Oui, tout à fait, oui.
Comment vous avez fait?
Je l'appelais le matin à 8h pour lui dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Il me faudrait telle information parce que j'en ai absolument besoin pour moi et tout. Et il me disait, je ne sais pas. Voilà, donc à partir de là, merci. Et hop, il fallait que je me débrouille moi, par moi-même. Voilà, donc ça a été une petite difficulté. Alors du coup, après, je l'ai laissé aller un peu plus loin, avoir 2-3 chapitres. Parce que l'idéal, ça, il est le temps d'écrire complètement son manuscrit, puisque moi, je raconte une histoire qui se passe 20 ans après la sienne. Donc, j'avais forcément besoin d'informations. Mais comme lui, il avait aussi besoin de temps en temps de quelques informations, puisque moi, il y a un petit-fils qui a 12 ans dans l'histoire. Donc, à un moment, je lui ai rappelé que tout scripturant qu'il était, il fallait que ses personnages fassent un petit peu quelque chose pour avoir un enfant. Hein, pour que moi je sois bien calé. Donc il a dit ah ouais bon bah je vais les faire coucher là dans le chapitre suivant. Alors voilà. C'est...
Pierre.
Oui, c'était amusant effectivement la façon de travailler d'Alain qui est du coup qui devient du harcèlement. Hein, on est d'accord. du harcèlement textuel. Et donc moi je ne peux pas travailler comme ça en fait. La question s'est posée au bout du troisième livre que j'étais en train d'écrire, parce que je me disais, c'est quand même moi qui signe les contrats, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose sur mes propres bouquins, que je ne laisse pas les bouquins s'écrire par eux-mêmes, hein, ce qui est le cas en fait, hein, les bouquins s'écrivent à travers moi, ce n'est pas tellement moi qui les conçois, je ne suis pas un créateur de livres, je suis un accoucheur de livres, j'ai l'impression. J'ai essayé de faire un plan, de faire comme tout le monde, de dire je vais faire un plan, comme ça je vais mes personnages, parce que les personnages dans la version scripturante ont une fâcheuse tendance à vous échapper complètement et avoir des réactions totalement inattendues, comme par exemple je meurs à ce chapitre et tu te démerdes avec ça, et voilà, t'as un personnage qui meurt et puis il est plus là, on peut plus l'utiliser, mais c'est leur liberté, donc je laisse beaucoup de liberté aux personnages. Et je me suis dit, voilà, je me fais manipuler par mes personnages, donc je vais essayer de contrôler les personnages, je vais essayer de les diriger. J'ai donc fait, c'était pour un Roel, donc j'avais pas trop de risques, parce que les Roel, c'était une écriture de série. Et j'ai fait un plan précis, avec c'était un truc spatial, une prison spatiale, donc il y avait même carrément les plans de la prison, enfin, etc. Et j'ai tué le livre en 50 pages. Je veux dire, au bout de 50 pages, je ne savais plus quoi dire, ça ne m'intéressait même plus. Et j'ai appelé mon éditrice de l'époque, je lui ai dit, ben voilà, j'ai fait un plan, et j'arrive plus à écrire. Quoi. Elle me dit, ben repars sur autre chose. Et donc j'ai complètement abandonné l'idée de plan, et je suis parti, j'ai élargi au maximum, parce qu'il faut se connaître soi-même finalement, et je me suis rendu compte que l'écriture structurait le livre. Le livre se structurait par l'écriture. Les renseignements dont j'avais besoin, effectivement, comme dit Laurence, j'allais les chercher au moment où j'en ai besoin, parce que je ne sais. Et le problème s'est posé de façon beaucoup plus cruciale pour L'Enjeu mineur, qui est un livre historique. Et donc, quand on commence de l'historique, on est noyé dans une doc terrible, parce que le moindre pas du personnage ouvre des portes dont il faut savoir exactement ce qui se passe derrière. Et je me suis dit, je vais quand même lui prévoir une trajectoire pour chercher les renseignements dont j'ai besoin au moment où il va aller, par exemple, dans la ville de Tours, ou d'Orléans, comme ça je vais voir comment était Orléans à l'époque, sauf qu'il n'est jamais allé à Orléans, quoi. Qu'au lieu de partir à droite au premier chapitre, il est parti à gauche, mon personnage. Et que donc je me suis rendu compte que finalement, ça servait aussi ça à rien. Je m'étais nourri de la période pour tout ce qui concerne le langage, pour les mœurs, etc. Mais qu'après, quand j'avais besoin d'un renseignement sur une ville ou sur une diligence, combien de temps dure une diligence, combien de temps une diligence met pour aller de Nantes à Paris, etc., et ben que ça viendrait au moment où voulu. Et donc j'ai continué à faire confiance du coup à ce qui se passait et à continuer de ma manière, comme dit Alain, scripturante.
Mais on peut rien faire. Enfin, je veux dire, on est d'un côté ou de l'autre de la barrière. Alors il y a un côté qui est... Le fait d'être très structurant, d'avoir plein de docs, c'est une manière de se rassurer soi-même avant de démarrer un roman. Bien entendu, on cherche aussi de la doc et des fois on dévie de son propre projet. Ça, c'est pas très grave, mais on a besoin d'être immergé complètement dans le monde dans lequel on va faire évoluer nos personnages. Mais je pense que oui, c'est une manière de vraiment de se rassurer dans l'écriture.
Pour finir sur le scripturant, enfin la façon de travailler, j'ai besoin, je pense en tant qu'auteur, de l'émerveillement créé par le personnage. C'est-à-dire, le personnage découvre un monde par ses yeux et moi va m'émerveiller moi-même. J'ai besoin d'être un enfant en permanence. Et si je fais une structure, j'ai l'impression que je perds complètement cette innocence et donc je perds ma faculté d'émerveillement.
Avant que la question me soit envoyée, je voudrais dire deux choses. La première, c'est quand tu as écrit L'Ange mineur, tu as fait une documentation historique qui était colossale, qui était beaucoup plus que ce dont tu avais besoin. Et ce background, après, tu le sortais tout seul comme un grand, tu en faisais ce que tu voulais. Et ton histoire, c'est peut-être la seule fois où tu n'as pas été scripturant, c'est-à-dire tu as été obligé de tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui étaient factuels et malheureusement écrits déjà depuis un siècle, deux siècles et un peu plus.
Oui, mais ça, c'est la rigueur du livre. Alors que tu fais dans le passé, effectivement, tu as une documentation qui est très importante, tu es obligé de tenir compte de ce qui s'est passé. Ouais. Et dans la science-fiction, ou dans le space-op, ou n'importe quoi, c'est que tu déterres ta propre documentation, en fait. C'est toi qui crées. Il y a aussi une autre forme de rigueur qui se met en place, mais qui n'est pas basé sur une documentation existante. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'histoire, on est prisonnier de la documentation, mais, ça c'est clair.
Mais sur le space opéra, et puis après on va parler système et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le space opéra, est-ce qu'il n'y a pas quand même... est-ce que vous lisez régulièrement des articles? Est-ce que vous vous intéressez à l'espace? Est-ce que vous vous intéressez aux planètes qu'on découvre?
Non mais tu déconnes ou quoi?
Non mais enfin, est-ce que je veux dire,
on va pas s'intéresser à ça. T'as vu, c'est des mecs qui rêvent plus.
Je sais. Mais en fait, non. Mais c'est comme pour l'Ange mineur. Il y a une documentation historique. Est-ce que cette documentation scientifique, tout du moins, est diffuse et permanente, ou est-ce qu'il y a une liberté d'imagination qui est totale?
Je commence. Non, je crois que c'est total. Oui.
La liberté d'imagination est totale. Par contre, on se surdocumente là-dessus. Pas tous. On le fait pas tous de la même façon. Moi, aujourd'hui, 95% de ce que je lis, ce sont des communications scientifiques. Dans plusieurs langues, en plus, ça devient chiant, parce qu'il y a même des langues que je ne comprends pas très, très, très bien. Mais voilà, c'est grosso modo ça. J'arrive plus à lire des romans, excepté les romans des copains, parce que bah, c'est des copains. Alors, le hic, c'est que j'ai 3000 copains, auteurs. Mais sinon, tout va bien. Donc, oui, il y a la documentation, elle est permanente sur la science et sur les évolutions. Et c'est peut-être pas tout à fait un hasard si depuis une bonne décennie j'écris moins de science-fiction, c'est que ça devient de plus en plus difficile d'écrire de la science-fiction. Le travail que tu as fait de recherche, d'information, où en plus, dans le roman, tu te permets d'expliquer au lecteur comment ça fonctionne, j'ai plus le courage. J'ai plus le courage. Je sais pas comment tu fais. Donc, mon prochain roman de science-fiction sera écrit par Pierre Bordage.
Ça dépendra des conditions.
D'accord. On parlera des Tobago plus tard.
Ça, c'était le... Alors peut-être que Pierre et Laurence peuvent nous parler de la documentation, mais aussi Alain, parce qu'on a parlé de plans et de structure, mais cette documentation un peu diffuse.
Lorsqu'on a mis en place Gigante, qui est une planète donc où un avion met un siècle à faire le tour. À un moment, j'ai appelé, j'ai dit, je suis un peu gêné parce que ça va s'écraser, ça va s'imploser et tout. Et là, donc, Pierre m'a dit, on s'en fout, c'est une exception à la règle et on va s'affranchir complètement de ça. Donc, la doc, là, il n'y avait plus besoin. Voilà.
Oui, on a aussi cette liberté. C'est-à-dire qu'on est au courant d'un certain nombre de choses. On sait effectivement que si une planète est énorme, elle a une masse qui est très importante. À partir de ce moment-là, on pourrait réécrire « Question de poids » d'Al Clement, qui est un bouquin absolument exceptionnel et totalement réaliste d'un point de vue scientifique. Et puis, on peut faire, comme Pierre et Alain ont fait, dire « Eh ben, on s'en fout ».
Oui, parce que si tu me... C'est bien joli de faire attention aux scientifiques et à leur vérité, mais imagine que quelqu'un dise « Moi, je vais imaginer un monde qui est rond ». Où la planète tourne autour du Soleil au moment où tous les scientifiques disaient non, elle est plate et le Soleil tourne autour de nous. Donc les scientifiques sont gentils, mais finalement ils disent une vérité à l'instant T qui ne sera pas forcément l'avancée technologique évidente.
Laurence.
Alors bon, moi par rapport à la documentation, donc moi j'écris toujours une première version qui est un jet où il n'y a aucune recherche scientifique, plus ou moins, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très vague où je me laisse complètement... Et après, comme mon argument, par exemple dans Vestige ou dans la trilogie Quantica, parle de science, c'est-à-dire de la relation de l'humain face à en fait, une explication scientifique ou une explication autre... du type mythologique, par exemple. Donc, j'avais besoin de la science, en fait. J'avais besoin de ce support-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai développé, en fait, quand j'ai réécrit le roman. Et à ce moment-là, je me suis vraiment plongée. Mais moi, j'aime beaucoup rencontrer des scientifiques. C'est-à-dire, je préfère aller... par exemple, j'ai été à l'Observatoire de Genève, où qui était à l'époque dirigé par Michel Mayor, donc le premier astrophysicien qui a découvert, l'astrophysicien qui a découvert la première exoplanète avec Didier Queloz. Et du coup, moi, j'aime beaucoup ce contact-là, c'est-à-dire d'aller voir les gens et discuter autour d'un café, etc. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je lis beaucoup de choses scientifiques, mais parce que mon argument est scientifique, c'est-à-dire, voilà.
Mais est-ce que dans les sciences, il y a parfois la notion d'émerveillement dont parle Pierre et ça déclenche des idées de romans? Qui veut répondre?
Alors, je viens de faire l'expérience avec Roland Lehoucq et puis deux autres scientifiques, Jean-Paul Demoule et Jean-Sébastien Steyer, où il y a une création de planète. Donc, c'est Roland qui a posé les bases de la planète, qui a fait la cosmologie, qui a défini la planète. Après, il y a eu une création de vie plausible par rapport à la planète par d'autres scientifiques. Et en fait, on m'a demandé de faire une histoire sur cette planète en tenant compte des caractéristiques posées par les scientifiques. Et ce qui était intéressant, mais où j'étais encore plus intéressé par leur réaction, c'est qu'ils avaient besoin d'un seul coup du regard humain posé sur leur travail. C'est-à-dire que... Et là, j'ai compris à quoi servait finalement la science-fiction. D'écrire une planète toute seule dans l'espace, de façon purement technique, ça n'intéresse pas grand monde. En revanche, de voir les réactions que nous, humains, pouvons avoir par rapport à ce monde, ce que ça va susciter en nous, ça devient intéressant. Et nous sommes des humains qui parlons à des humains, les auteurs sont des humains, a priori. Hein. Tu es bien humain, Yardin.
Non, mais moi, par contre, j'écris pour les chiens.
Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est se servir du prétexte science-fiction, ou planétaire ou scientifique, pour... donner du grain à moudre à d'autres êtres humains, quoi. Et c'est ça l'intérêt de, je pense, avoir deviné que c'était l'intérêt principal de la science-fiction. C'est apporter l'élément humain à l'élément scientifique.
Alain, Laurence, une réflexion là-dessus?
Je crois que la science nous sert à aller plus loin. Mais n'empêche qu'une fois qu'on a été plus loin, on est confronté de nouveau aux réactions de l'homme, par exemple. Si nos héros sont humains, et c'est pas parce qu'ils sont à plusieurs dizaines d'années-lumière d'ici qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations, et je crois que ça restera de ce côté-là très éternel. Sauf que, effectivement, l'environnement va influer sur leur comportement. C'est ça qui nous intéresse, en fait.
D'où je pense que le Space Hop reprend un peu la... Je parlais de mythologie tout à l'heure, reprend les grands questionnements mythologiques parce que c'est une littérature qui tend vers l'archétype. Je veux dire, plus on lance loin les gens de l'espace, plus on les met hors du temps finalement et plus ils deviennent archétypaux, à mon
sens.
Vous
êtes bien assis parce que là, je crois que maintenant, on va passer sur des trucs un petit peu... Mais non, bien au contraire.
Bien au contraire.
La science, le space opéra, c'est de la fantasy. Avec des boulons, voilà. Les boulons, on essaye de les rendre le plus crédibles possible, mais ce qu'on raconte, les aventures qu'on raconte, ce sont des aventures humaines qui sont piocher, plonger dans des fantasmes parfois ancestraux, dans des histoires qu'on se racontait déjà il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Au-delà, je ne sais pas. Et c'est ce qu'on fait. Le Space Op, c'est ça. Après, quand on travaille en art science, en plus du Space Op, comme Laurence le fait, la documentation... Alors, ce qui a été très drôle, j'ai découvert donc que tu te servais après de la documentation. C'est-à-dire que tu racontes d'abord ton histoire et ensuite tu vas rebalancer le truc. Ça me sidère. Je ne sais pas comment tu gères le truc, mais tout d'un coup, je viens de comprendre. Mais putain, pourquoi moi, je me documente en amont? Mais je suis con, j'écris mon truc et puis après... Et puis après, j'y vais, je vais rajouter du crédible. Au-delà du crédible, c'est parce que par moment, ça fait réfléchir. Rajouter des boulons, c'est aussi de temps en temps dire, tiens, bah, tu sais, le machin, il tient pas tout seul, quoi. Si tu mets pas un pot de colle, si tu mets pas du scotch, si tu mets pas une fermeture avec le pantalon, il tombe.
Disons que c'est surtout, moi, j'ai pas envie que mon imaginaire soit bloqué. Donc en fait, je préfère en fait me dire, ok, je fais comme je pense, ce que je ressens. Et puis après, j'essaie de voir comment ça peut être plausible, etc. Mais je veux surtout pas être bloqué. Qu'on me dise, non, ça, tu peux pas faire, c'est pas scientifique, ça n'existe pas, ça n'existera jamais, etc. Ça, je veux surtout pas entendre. Donc c'est pour ça que je préfère faire comme ça et faire au fur et à mesure. Je fais toujours un premier jet qui est hyper bordélique, enfin, c'est vraiment cauchemardesque, illisible. Mais en fait, en même temps, ça me permet de complètement libre, en fait. Et surtout pas me faire arrêter par des concepts trop rigoureux. Mais par contre, après, j'aime bien recadrer le truc... Et des fois, je ne regarde pas. Hein. Des fois...
Alain, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai vu prendre ton...
C'est vrai que c'est assez étonnant. Elle construit sa maison et à la fin, elle pose l'échafaudage. Donc, ça surprend un peu. Mais
je ne sais pas faire de plan. Hein.
mais voilà, donc, ça vous montre quoi? Ça vous montre qu'on est comme des cuisiniers. On a tous chacun nos recettes. Et finalement, ça, c'est ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. Donc, ça vous intéresse là, à ce moment-là, parce que là, si vous venez ici, c'est que vous êtes intéressé par ça. Mais en définitive, ce qui est là, l'important, c'est de l'autre côté, c'est dans la salle de restaurant. Et c'est le plaisir que vous allez prendre à lire des histoires, que vous sachiez que le gars marche en loin en travers dans son bureau, tape une phrase, soit torturé par ça, ou comme certains, ça coule comme un robinet. Tiens, j'ai encore écrit 3 chapitres dans la journée, c'est impeccable. On s'en fiche quelque part, c'est vraiment... Mais voilà, on a chacun notre propre manière d'élaborer nos plats.
Là, on a parlé science et technique. Je voudrais parler organisation humaine. Quand on fait quand on imagine des aventures lointaines, il nous faut quand même un cadre humain, parfois, ou pas. Je voudrais que tu nous parles de l'homéocratie, un petit peu. Hein, Yal, s'il te plaît.
Donc j'étais sûr que la question allait tomber sur moi, c'est tout à fait un hasard. L'homéocratie...
Comment tu l'as imaginé? Comment tu l'as conçu?
Mais c'est tout un univers. Déjà, on va être très très clair. Je suis parti de ce que je connaissais. Ce que je connaissais le mieux, c'est le monde et la géopolitique. C'est ma formation. Donc, je suis parti de ça. Je connaissais bien. J'ai essayé d'extrapoler, de projeter sur, non pas des futurs lointains, mais des éventuelles évolutions possibles. Et puis, je m'en suis servi pour... En fait, l'homéocratie, c'est quoi? C'est l'ONU, quoi. Non, pas tout à fait. C'est légèrement différent. Mais j'ai travaillé le plus possible près de ce que nous connaissions à l'époque. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas à quel point ça pouvait être dur. Mais tu te rends compte que tu essayes de me faire parler d'un univers. J'ai construit un truc, il y a 260 planètes, il y a 250 régimes politiques différents. Et tous ces régimes, en fait, ont été piochés sur des régimes politiques que nous connaissons tous, auxquels nous sommes confrontés, soit directement parce qu'on vit dans les pays en question, soit parce qu'on voyage dans les pays en question, ou parce qu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire. Parmi ces régimes-là, il y en a quelques-uns qui ont disparu, c'est-à-dire qui ont tenu 50 ans, 30 ans ou 60 ans. Bon, en ce moment, par exemple, je suis en train d'écrire une utopie. Je m'éloigne de l'homéocratie parce que ta question était trop dangereuse pour ma mémoire distillée par le pastis. J'écris une utopie, une vraie, et je me sers d'un certain nombre de choses que nous connaissons tous. Je pars du principe que... Je m'adresse à des gens qui ont à peu près la même culture que moi. On vit sur la même planète, on lit les mêmes journaux, on regarde les mêmes films, on entend les mêmes chansons. Et donc on essaye le plus souvent possible, j'essaye le plus souvent possible d'être juste en accord avec le monde. Mais là où ça devient un petit peu plus vicelard, c'est que j'ai des amis. C'est des trucs qui arrivent, tu vois. Et j'ai des amis dans le Chiapas. Il y en a un qui s'appelle Comandante Marcos. Et ben voilà, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout de l'utopie de Marcos. D'accord. Et je l'ai fait comme ça.
En fait, mon idée, c'est... on a parlé de crédibilité scientifique sur les univers éventuellement qu'on imaginait, ou pas. C'est-à-dire qu'on peut... tout du moins avoir l'information et choisir de s'en éloigner ou de s'en approcher. Mais pareil sur les systèmes, donc c'était la question de l'homéocratie, mais dans la même chose sur Gigante, quand vous commencez à imaginer une religion ou quand vous commencez à imaginer une structure, c'est comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que pareil, il y a de la documentation? Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, bah non, ça peut pas fonctionner comme ça ou ça doit fonctionner comme ça? Comment est-ce que vous faites?
Moi, pour Gigante, j'ai pas créé de religion pour une fois, je me suis...
Dans tes autres,
dans oui,
tes
dans, autres dans livres, d'autres
c'est,
livres,
c'est une question tout, générale.
Bien sûr, parce que moi, ce qui m'intéresse dans les bouquins, et principalement quand je fais le space opéra, je m'en approche au plus près, c'est la question entre esprit et matière. Ça, c'est ce qui me tracasse, enfin, ce qui traverse tout ce que je fais. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la matière peut s'affranchir de l'esprit? Est-ce que l'esprit peut s'affranchir de la matière? Ou est-ce que c'est indissociablement lié? Ce qui aussi conditionne toutes les structures qui peuvent se mettre en place. C'est-à-dire que j'essaie de considérer que l'univers est un langage. Alors, c'est assez peu scientifique pour l'instant, mais la pensée matérialiste pure ne m'intéresse pas. En gros, si jamais nous sommes le fruit de la matière, ça ne m'intéresse pas trop. D'accord, si on est fruit de la matière, on est conditionné, et voilà, on a tel type de conditionnement. Et, bon. Et en revanche, quand on met une colonie spatiale, du coup, on peut voir une interaction entre l'homme et l'environnement, et voir si les caractéristiques humaines se développent malgré l'environnement, si l'environnement conditionne totalement l'être humain. Et c'est ça qui me passionne. Est-ce que nous avons, et ce qui m'intéresse aussi dans la physique quantique, qui par ailleurs introduit le principe d'incertitude, ce qui est toujours intéressant, un principe d'incertitude, parce qu'il n'y a rien de pire que les choses figées. Et le principe d'incertitude, c'est est-ce que nous avons un impact sur la matière d'une façon ou d'une autre? Et c'est la question qui me traverse. Et dans tout ce que je mets en place dans l'espèce opéra, c'est dans toutes les organisations sociales et dans tout, c'est comment est-ce que nous pouvons nous situer par rapport à la matière? Comment est-ce que l'environnement agit sur nous? Comment nous agissons sur l'environnement? Est-ce que nous agissons sur l'environnement, déjà? Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là qui m'intéressent.
Alain?
Donc, Pierre n'a pas créé de religion, il me l'a laissé à moi, le soin de le faire, dans le roman qui suit, puisque son héros est devenu un dieu dans mon livre, moi.
Ça m'a fait rire quand il m'a demandé ça, Alain. Moi, je vais créer une religion, je dis, tiens, ça change un petit peu.
Et cette religion, finalement, elle est créée par la matière, puisqu'il y a un orage, cette planète est très électrique, et il y a un orage absolument terrible, mais qui est prévenu par son personnage, et qui arrive, et grâce à lui, la population peut se mettre à l'abri juste à temps, et du coup, il est considéré comme un dieu, et le premier dieu issu directement de cette planète. Parce que, bon, bien sûr, lorsque les colons arrivent, ils sont arrivés avec leur religion, mais là, c'est la première vraiment intramuros, quoi, voilà. Donc ça a été assez marrant à faire. Donc là, tu vois, l'interaction entre la matière et puis la spiritualité, je pense qu'elle est évidente, quoi.
En même temps, quand tu crées ta religion, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prêtre. Donc sur la structure même...
Non, mais il y a de la quête, hein, pour récupérer de l'argent, c'est bon. Donc ça, c'est une constante dans toutes les religions, c'est la quête. Donc oui, il y avait ça, mais bon, ce monde est en construction, donc de toute façon, ça arrivera. Voilà.
Laurence, pareil, comment humainement tu as construit ta trilogie sur l'organisation humaine de ce que tu as fait?
L'organisation humaine. En fait, bon, moi j'ai imaginé un monde où en fait, au moment où l'histoire débute. Donc on a une planète glacée qui s'appelle Gemma, où des colons se sont installés il y a à peu près 150 ans. Et au moment où l'histoire débute, c'est la première fois en fait que les colons se disent « Nous ne sommes pas des colons, mais nous sommes des Gemiens ». Donc voilà, c'est une sorte de prise de conscience d'une nation, en fait. Et voilà, ouais, enfin je sais pas.
Mais comment tu l'as structuré, ta colonie?
C'est-à-dire ?
C'est un système patriarcal, matriarcal, c'est une démocratie, une dictature ?
Non, alors c'est un peu le bordel, on va dire, parce que On veut dire qu'il y a une ancienne... il y a des militaires, malheureusement, qui sont là, parce qu'ils étaient là pour... Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, quand les colons se sont installés sur cette planète gelée, mais qu'il y a eu des traces d'atmosphère, donc qu'il y a eu de la vie dans un lointain passé, la première chose qu'ils ont découvert en arrivant là-bas, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas seuls. C'est-à-dire qu'il y avait en orbite un immense artefact, très grand, de 60 km de long. Et en fait, ça les... Donc, ils ont été déjà très surpris et surtout très inquiets, parce que c'est comme une épée de Damoclès qui flotte, en fait, sur cette Terre. Et ils n'arrivent pas à se l'approprier. C'est-à-dire qu'après 150 colonisations, ils sont là un peu à marcher sur des œufs. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu de conscience politique qui est vraiment apparue auparavant. C'est que les colons n'arrivent pas à s'approprier les lieux en se disant « Mais ce vaisseau, il est abandonné, mais est-ce qu'il est vraiment abandonné ?» C'est un mystère qui plane, il est très inquiétant. Donc il y a une espèce de on ne sait pas si on peut vraiment rester là, est-ce qu'on est en sursis, on est locataire là, mais est-ce qu'on va y rester ?
Fais gaffe, tu vas te spoiler toi-même.
Non, non, je me spoil, non, non, c'est bon, je me maîtrise. Non, non, ça c'est encore dans le tome 1, donc c'est tout bon. Mais voilà, c'est ça l'idée, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment à l'aise. Donc il n'y a pas vraiment... c'est pas très bien structuré, en fait. Voilà.
Je voudrais... Alors, aventure lointaine, qui dit aventure lointaine, dit loin. Hein, voilà. Donc, question du voyage. C'est bien, parce que c'est la 8e fois qu'on en parle, Pierre, la question du voyage en 2 ans. Je voudrais simplement qu'on parle du temps du voyage, pour le coup. Parfois, les écrivains de science-fiction s'en affranchissent et en repliant l'univers en 4, traversent des distances faramineuses en 4 secondes. Et puis, parfois, ils prennent le temps, comme sur Gigante, par exemple. À quoi vous servait ce temps du voyage pour vos héros ? Puisque Gigante est énorme et du coup on met des mois et des mois à aller d'un point A à un point B.
Bah, le voyage a une grande vertu, c'est celui de la transformation. Le voyage transforme, enfin on en a déjà parlé aussi. Le voyage est initiatique évidemment puisqu'il permet de découvrir non seulement des horizons lointains mais de se découvrir soi-même face aux difficultés du voyage. Enfin, pour moi, les plus grands livres initiatiques sont les livres de voyage. Hein. Je parle de l'Odyssée. On va commencer avec l'Odyssée, où il y a vraiment le voyage d'Ulysse. Le voyage autour d'Ulysse lui permet de surmonter tout un tas d'épreuves et rejoint, à mon avis, le grand corps des romans initiatiques. Je suis très, très attaché à la notion d'initiation dans les livres. Et donc, évidemment, le voyage est la voie privilégiée pour cette transformation. Donc, non seulement on a travaillé le problème du voyage interspatial, intersidéral, mais il y a aussi le voyage sur la planète elle-même. C'est-à-dire que non seulement quand on arrive d'un voyage très très long, qui a duré plusieurs années, peut-être en état de cryogénisation ou non d'ailleurs, peu importe, il faut repartir vers un autre lieu, vers le lieu de destination, vers la Terre promise. Et le voyage va mettre tellement longtemps... Surtout si on n'a pas les moyens. Hein. On avait dit qu'il y avait des gens pauvres. Et donc, ils partent soit à pied, soit avec des chars solaires, soit avec des choses comme ça. Et ils vont mettre plusieurs générations à atteindre. Donc, la notion de voyage est encore beaucoup accrue dans Gigante à cause de la taille hors norme de la planète. Quoi. Donc, ça me permettait de travailler doublement le thème du voyage, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et puis... L'une des épreuves du héros, ça va être d'essayer de trouver sur cette planète la façon de voyager beaucoup plus rapidement et donc d'affronter un élément qui est terrible, qui est l'électricité, hein, à très très haute tension, pour pouvoir voyager quasiment à la vitesse de la lumière. Donc ça aussi, c'est une épreuve ultime du personnage.
Alain ? Effectivement, on a joué aussi sur ce temps au tout début des deux romans, puisque le fils double son père pendant le voyage, parce qu'il utilise une technologie plus moderne, alors que le père, lui, voyage juste la tête. On reconstitue le corps à l'arrivée. Ça, c'est pour gagner de la place dans ces grands vaisseaux qui partent pour de très longs voyages. Donc nous, on avait besoin de ça. On avait besoin que le fils, sur cette planète, arrive et soit plus vieux que le père. Ça nous intéressait, voilà. Donc on a joué là-dessus. On fait ce qu'on veut.
Loin de moi l'idée de remettre en cause ça. Je vous propose, il nous reste un petit quart d'heure avant de passer aux questions. Je propose qu'on s'intéresse au cas Heyerdahl, car en termes d'aventure lointaine, ça fait un petit bout de temps qu'il a préféré l'aventure actuelle, que ce soit dans Transparence, Résurgence. Qu'est-ce qui fait que tu t'éloignes du space opéra ? Est-ce que
tu y reviendras.
Alors, je vais déjà répondre tout de suite à la deuxième question. Oui. Donc, le prochain roman n'est pas un space opéra. Celui-là, il paraît en février, mais celui qui paraît en septembre est un space opéra.
En fait, ma question derrière, c'est pas tant pourquoi tu as abandonné, mais qu'est-ce qui fait que d'une idée, on part très très loin ou on reste dans un cadre qu'on connaît ?
J'ai eu besoin pendant très longtemps d'utiliser des métaphores pour raconter des choses qui me paraissaient importantes sur le monde et sur l'humanité. Je pense que j'ai été formé à ça. Bon, je suis passé par socio, psycho, philo, toi des sciences humaines. Et j'avais besoin, pour être le plus fluide pour moi, à mon sens, et à la fois être lu avec facilité, de passer par voilà, le space opéra. J'ai à peu près tout essayé. Non, j'ai essentiellement essayé le space opéra, un petit peu de fantasy, un petit peu de machin, mais j'avais besoin de filtres. Parce que pour moi, le vecteur le plus important, écrire un bouquin de philo, qu'on s'appelle BHL ou n'importe qui, non, c'est pas un gros mot. Ah si, pardon. Non, mais qu'importe. Écrire un bouquin de philo, c'est quelque chose de très particulier qui va être lu par des pros ou dans le meilleur des cas des universitaires. Quand on écrit un roman, on raconte une histoire, on met à peu près ce qu'on veut dedans, mais c'est lu par des gens qui sont comme nous, totalement comme nous. Alors avec des rêves, avec des vies, et on les balade. Donc pendant très longtemps, j'ai eu besoin de créer des métaphores. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie de dire directement les choses. C'est-à-dire de passer sur le monde d'aujourd'hui et de le décrire tel qu'il était, avec les gens tels que je les rencontre, les gens tels que je les connais. Ça a commencé avec Transparence, il y a eu Résurgence ensuite. Maintenant, il y a eu après Rainbow Warriors, qui est à la fois aussi une utopie. Ça reste quelque part un bouquin de science-fiction parce qu'il y a quelque chose d'utopique. Pourtant, c'est la première fois 100% de mes personnages dans ce bouquin. Non. 100% de mes personnages, moins un, existent. Voilà. Et donc, c'est devenu pour moi évident de dire j'arrive plus à remuer le monde en faisant de la métaphore parce qu'on m'entend plus comme ça. Donc il faut que je hurle autrement.
Pierre, comment tu choisis si une aventure, une idée va devenir un space opéra ou quelque chose de terrestre?
Alors, ce que je fais depuis que j'ai commencé, c'est que je fais un cycle de space opéra, puis une fois que je suis là, lointain, là-haut dans l'espace, je dis, oh là, la prochaine fois, je reviens sur Terre, quoi. Et donc, le bouquin suivant se passe généralement sur Terre, dans un avenir très proche, voire presque contemporain. Et quand je suis sur Terre, dans mon avenir, dans mon monde contemporain, je me dis, oh là là, vivement que je reparte dans l'espace, quoi. Et donc voilà, je fais une sorte d'alternance entre les histoires qui se passent sur Terre et dans l'espace, parce que j'ai besoin quand même du merveilleux que me procure le space opéra ou le planète opéra en l'occurrence, et j'y reviens régulièrement. Mais il y a des sujets, alors je vous donne un exemple, lorsqu'il y a eu le 11 septembre 2001, c'est-à-dire l'attentat du World Trade Center, c'est pas l'attentat lui-même qui m'a intéressé parce que l'attentat était très prévisible. C'était juste une question de déséquilibre des mondes et que finalement cet attentat aurait lieu d'une façon ou d'une autre. Moi, je l'avais situé dans l'Évangile du Serpent qui était paru en août 2001 à Disneyland à Paris. Sauf que là, il a eu lieu à New York sur les World Trade Center. Et ce qui m'a intéressé, c'est la réaction que j'ai eue, c'est pas par rapport à l'attentat, mais c'est par rapport aux réactions à l'attentat. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un président américain qui s'est levé en disant voilà, nous avons été attaqués, il y a des ennemis, il y a l'axe du mal, nous allons aller frapper l'axe du mal. On s'est un peu trompé parce qu'on a pris l'Irak au lieu de. Bon, bref. Je me suis dit, mais cette guerre que le président américain appelle de tous ses voeux, je vais la créer. Enfin, elle m'effrayait tellement, enfin, elle me faisait tellement réagir que je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que de la créer. Donc j'ai fait l'Ange de l'Abîme, quoi, qui est un affrontement entre le Moyen-Orient et le monde chrétien et le monde musulman. Donc ça ne pouvait se passer que sur Terre. Hein. Mais une fois que j'étais dans le bouquin, je me dis, oh là là, la prochaine fois, je vais me faire un space opéra, ça va être bien. Je vais dans l'espace, j'ai des planètes lointaines, des voyages, des mondes extraordinaires et tout ça. Voilà, et c'est cette alternance-là que j'essaie de, enfin, qui est naturelle chez moi et que je suis en permanence.
En plus, tu es suivi par deux éditeurs. Donc, il y en a un sur lequel tu travailles effectivement complètement...
Plus contemporain, oui.
Plus contemporain, et l'autre sur le
plus imaginaire. Ouais, la Talente, en gros, c'est l'imaginaire, et je travaille beaucoup le contemporain, Diable Vauvert, qui est d'ailleurs un autre rapport à l'écriture, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que quand on est dans le contemporain, on n'a pas le même rapport à l'écriture, parce qu'on parlait de l'effet de réel tout à l'heure créé dans l'espèce opéra, c'est-à-dire la plausibilité. La plausibilité, elle n'est pas seulement scientifique, elle est aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire la cohérence du livre, des personnages, etc. Et j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que l'espèce opéra interdit le deuxième degré. En gros, qu'il ne faut pas ouvrir des fenêtres pour que le lecteur s'échappe à tout moment. Et on aurait, si on joue avec l'écriture trop, j'ai l'impression qu'on va démolir la construction imaginaire. Dans le monde contemporain, l'écriture contemporaine, il n'y a pas ce risque-là, puisque vous pouvez jouer. Parce que le monde, il est simplement établi de façon solide, à peu près on le connaît, et que donc on peut jouer beaucoup plus avec l'écriture. Donc il y a une plus grande souplesse, à mon avis, mais c'est évidemment que ça ne me concerne que moi, dans l'écriture contemporaine que dans l'écriture de space opéra, qui, je le rappelle, tout à l'heure en parlant de fantaisie ou de mythologie, pour moi relève du récit mythologique et donc implique une certaine tenue d'écriture spécifique au genre.
Alain ?
Mais moi, j'ai un avantage sérieux sur les trois autres confrères, c'est que j'écris pour la jeunesse. Donc je peux tout me permettre, puisque ce ne sont pas mes livres qui vieillissent, ce sont mes lecteurs. Premièrement. Deuxièmement, je peux écrire une histoire qui se passe sur une planète de sable avec des épices et puis des grands verres, parce que ces enfants-là deviendront des adultes, se mettront à lire à Dune, et en lisant Dune, disons, ça me fait penser à un livre d'Alain Grousset. Donc voilà, j'ai absolument l'antériorité par rapport à toute l'histoire, tout l'historique de la science-fiction. Je peux taper là où je veux, parce que je m'adresse à un public vierge, j'allais dire, et qui n'attend qu'à être émerveillé, donc je peux aller piocher tout ce que je veux. Voilà.
Il nous reste même pas une dizaine de minutes, 5 minutes. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Allez-y, c'est le moment.
Une dame.
Une dame là-bas, oui.
Bonjour, moi c'était par rapport, j'avais une question par rapport à la structure, aux structures sociales dans les space opéras. Est-ce que vous envisagez l'évolution justement de ces structures, l'évolution de la société ?
Yal ?
C'est forcément moi qui vais commencer par répondre, parce que c'est mon premier bouquin qui traite que de ça, mais que de ça. Hein. Sur 800 pages, je vous rassure, c'est pas chiant du tout, c'est... Je peux pas le relire. Oui, forcément. Et on essaye même parfois de sortir des modèles qu'on a déjà. Parce que le plus facile, c'est de reprendre ce qu'on connaît et toutes les étapes de l'humanité. C'est long, l'humanité, hein, on se rend pas compte, mais...
refaire Fondation, quoi.
Ah ouais, non. Là, j'ai réécrit Fondation l'autre jour, ça m'a rapporté 2 euros. Et d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de proposer de nouveaux modèles, c'est-à-dire de réfléchir à des choses qui sont, on va dire, soit du terme de l'utopie, soit du terme de la dystopie, soit du terme de la contre-utopie, mais en tout cas, de proposer des façons de fonctionner qui soient différentes. Ce qui est difficile, il est beaucoup plus difficile de s'éloigner des sciences humaines que de s'éloigner des sciences exactes. Parce que dans les sciences humaines, on a, ben, malheureusement, on les vit tous les jours. On les vit à la télévision, on les vit dans les journaux, on les vit dans ce qu'on lit, on les vit dans ce qu'on... Voilà. Les sciences exactes, à partir du moment où on a un truc, on peut jouer avec et aller un petit peu plus loin.
Il y
en a une là, qui devrait dire un truc. Là.
Ouais. Y a-t-il une autre question, à moins que Laurence veuille rebondir ? Non. Bon. Y a-t-il une autre question ?
Je vais vous faire Laurence rebondir.
Il y a un monsieur sinon de l'autre côté. Allez-y, relevez la main qu'on puisse vous.
Oui, alors une question un petit peu technique d'écriture. Vous avez peut-être déjà évoqué le sujet, je m'en excuse si c'est le cas, mais est-ce que le genre voyage lointain, donc souvent space opéra, vous oblige à écrire un certain type d'intrigue, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, voyage lointain, donc souvent quête initiatique. Est-ce que ça vous interdit, par exemple, je ne sais pas, d'introduire une dimension polar, de créer du rebondissement ? J'ai l'impression que souvent, qui dit voyage, dit découverte de soi-même. Et en gros, ce type de récit va restreindre revenir les structures, ce qu'on peut écrire. Est-ce que vous ressentez ça ou pas du tout?
Laurence a dégainé le micro.
Non, par rapport à moi, non, en fait. Parce que je pense qu'on peut traiter le sujet de toutes les façons dont on veut. Et moi, j'aime beaucoup la dimension thriller, même dans la science-fiction. Donc je pense que, bon, ça c'est mon point de vue personnel. Et c'est ma façon d'amener l'intrigue, de conduire l'intrigue. Et j'aime beaucoup amener du suspense, même si quête initiatique il y a sûrement. Mais je pense qu'on peut... pour moi, ce n'est pas du tout une limitation. Voilà, ça, c'est mon point de vue personnel.
Est-ce qu'Alien est une quête initiatique?
Ouf.
Tous les répondent bien.
Fantastique pur. Tout est possible dans le space opéra. C'est ça qui est merveilleux. Enfin, du planète opéra où on peut mettre toutes les intrigues que l'on veut. On peut faire des meurtres, avoir une enquête, avoir vraiment tout ce qu'on veut, des systèmes politiques... on peut aborder absolument tous les sujets parce que c'est une humanité qu'on remet dans les étoiles, donc ce qui concerne cette humanité concerne la nôtre aussi. Vous pouvez mettre des archivistes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez mettre des hommes politiques, vous pouvez parler de absolument tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'un des attraits quand même majeurs du Space Op, à mon avis, hein, c'est le voyage et c'est cette dimension initiatique qu'on voit très bien dans Dune, par exemple. Enfin, c'est un planète opéra, d'ailleurs. Et c'est ça qui intéresse l'auteur. Il met une société et à l'intérieur de cette société, des oppositions, des personnages qui vont apprendre à se fondre ou à entrer en symbiose avec l'environnement, etc. Et c'est vraiment un des intérêts majeurs du genre. Mais encore une fois, rien n'interdit de mettre tout ce qu'on veut dans le space opéra. En revanche, je ne sais pas si le lecteur s'y retrouverait, parce que tout à l'heure, Jérôme a abordé la question du... ça se vend pas, et je suis pas d'accord du tout en fait. Comme disait Yal tout à l'heure, je pense que le space opéra ça s'apparente à la fantasy, et c'est un des genres SF qui marche encore très très bien. À la Talente, il y a beaucoup de space opéra militaire, par exemple, qui est un autre genre qui relève du genre marine 19e ou 18e. Flotte, voilà, la notion de flotte, et ça fonctionne très très bien, donc ce qui est la preuve que les gens ont besoin de cet exotisme particulier du space opéra, c'est-à-dire c'est le voyage, le merveilleux voyage auquel on est convié.
Un dernier mot, Alain.
Ça vient du fait qu'il y a à peu près maintenant plus d'un siècle qu'on vit sur la même cocotte minute, où il n'y a plus vraiment de territoire vierge à aller explorer ici. Donc cette envie d'aller voir plus loin ailleurs, ça reste dans l'espèce humaine. On a envie d'aller se balader tout le temps. Il y a toujours eu des aventuriers. Il y en a qui veulent aller plus loin et se poser quelque part pour créer leur propre société sans bouger. C'est ce qu'on a montré un peu dans Gigante. Mais il y a toute une race de population, d'aventuriers qui voudront toujours aller voir l'autre côté de la colline. Bon, pour l'instant, il nous manque un tout petit peu de... Un problème, c'est le transport. Mais voilà, sinon, le reste, ça dès qu'on l'a...
Il n'y a qu'à prendre les migrations de l'Europe vers les États-Unis, traverser un océan, sans espoir de retour quasiment. Oui, on a envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et si possible, si on est poussé par la nécessité en plus, comme l'était la plupart des colons, on va faire le grand saut, je pense.
Voilà, je vous propose de vivre maintenant la grande aventure lointaine à la librairie pour les retrouver en dédicace. Ayerdal va devoir nous quitter pour aller vers l'aventure lointaine de la Belgique. Merci à nos intervenants et puis merci à tous. Bon après-midi.
Merci, au revoir. Merci.